qui est venu ici donc pour cette table ronde sur le fantastique contemporain et source de nos peurs. Donc merci aux quatre auteurs qui ont daigné participer à mes côtés à cette table ronde. Donc est-ce que vous pouvez chacun à votre tour finalement vous présenter et expliciter vos affinités avec la littérature fantastique?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Je
commence par les fronts un peu.
On va commencer par le plus vif d'entre nous.
Je suis écrivain, mais j'ai jamais écrit le fantastique. Et je suis éditeur. Et mon affinité avec le fantastique, c'est en l'occurrence, c'est plutôt une affinité avec la fantaisie urbaine, plutôt qu'avec la littérature fantastique au sens classique du terme. Bien que j'ai un fort faible quand même pour les vampires. Il y a pas mal de bouquins sur les vampires, n'est-ce pas? Voilà.
Alors, je suis Anne Fakouri, donc j'écris du fantastique et de la fantaisie urbaine. Pourquoi le fantastique? Il y a plein de raisons littéraires, il y a plein de raisons personnelles aussi. Je pense que je suis à la fois dépressive et positive, donc du coup, c'est parfait. Il y a voilà, plein d'échos de la littérature du 19e et d'auteurs que j'ai pu lire plus jeunes aussi, contemporains comme Stephen King.
Alors moi je suis Cam, je suis à la fois novelliste et romancière, j'écris principalement du fantastique et des thrillers fantastiques. Et là mes thèmes de prédilection c'est les vampires.
Donc moi je suis Karim Berouka, qui n'écrit pas souvent sur les vampires, je ne sais pas pourquoi. Le fantastique parce que j'en ai lu beaucoup quand j'étais petit, Lovecraft et compagnie. Parce que ça me permet de rester aussi près d'un monde contemporain, réel, tout en me permettant à la fois de verser dans l'horreur ou dans le bizarre, ou en fonction des nouvelles. Parce que j'écris surtout mes nouvelles. Voilà.
Donc, pour rentrer dans le vif du sujet.
Yes.
À vos yeux, y a-t-il une littérature fantastique contemporaine, vu que c'est le sujet finalement de cette table ronde? Et est-ce que vous vous sentez vous-même en tant qu'auteur en phase avec celle-ci?
Alors, il y a évidemment une littérature, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a évidemment une littérature fantastique contemporaine. À partir du moment où il y a des auteurs qui écrivent du fantastique, maintenant, regrouper ça sous une sorte de, pas de chapelle, mais de mouvement, oui et non, je trouve quand même qu'en France, depuis on va dire les années 90, il y a quand même un petit renouveau du fantastique qui a peut-être commencé avec des éditeurs qui s'appelaient L'Oxymore et compagnie, qui a permis de lancer pas mal d'auteurs qu'on ne va pas forcément identifier par leur texte, mais par un mouvement plus commun. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est significatif ou est-ce que... Mais de toute façon, le fantastique, pour moi je considère que le fantastique, il a intégré depuis très longtemps la littérature générale, enfin la littérature en général, et qu'il est assez difficile d'aller chercher spécifiquement dans un endroit. Alors effectivement, tu as l'histoire de vampire comme Delicam, qu'on va peut-être pas forcément retrouver dans la littérature blanche, mais dans le fantastique en général, depuis un siècle, il fait partie de... Il est tellement mêlé à la littérature générale que je sais pas ce que je dis. Je pense qu'il est présent dans la littérature en point et voilà. Et puis je pense que entre Anne qui est là, André François Lucam et moi, on va écrire des trucs vraiment différents. C'est assez contemporain, parce qu'il y en a qui ne le sont plus.
Après, il y en a plus âgés.
Je ne sais pas trop. Je passe le micro.
Moi, le contemporain, je le vois déjà par le fantastique du 18e et 19e. Ça se passait à une époque révolue. Maintenant, ce qui se passe dans le fantastique, c'est ce qui se passe de nos jours. Enfin, on prend les thèmes d'aujourd'hui, quoi, avec des personnages de nos âges qui vivent dans notre société.
Oui, alors, au 19e, on a quand même un fantastique qui se passe au 19e.
Oui, hein, mais du coup, c'est très marqué du 19e, dès les préoccupations du 19e.
Non, non, voilà. Peut-être la différence entre le fantastique du 19e et la façon dont il a évolué au 20e siècle, c'est qu'au 19e, on a deux genres de fantastique. On a ce que Todorov définit comme un fantastique, on ne sait pas si c'est... Enfin, on peut avoir deux analyses ou deux points de vue, le point de vue vraiment surnaturel et le point de vue réel avec une altération de la perception. Et puis le fantastique, vraiment, où on a dans notre monde l'apparition de créatures surnaturelles comme Dracula, comme voilà. Et qu'on s'aperçoit, en tout cas aujourd'hui, que le fantastique est quelque chose de beaucoup plus assumé, à savoir que les créatures surnaturelles, dans les derniers romans ou dans la série, les derniers films qu'on peut voir, ces créatures surnaturelles font partie du quotidien. Et là, on rejoint la petite, parce que la petite fait partie. Alors, après, on a appelé ça la fantasy urbaine, parce qu'on a repris urban fantasy, le terme anglophone. Mais la petite fait partie du fantastique en soi, puisque ça se passe dans notre monde en général, avec ces apparitions-là. Donc, on assume plus facilement ces créatures qui ne sont plus cachées, qui ne représentent plus de mal, qui sont plus tapis dans l'ombre, mais qui peuvent vivre véritablement dans notre quotidien et intervenir directement. Et ça donne du coup effectivement des personnages fantastiques qui sont assez fades. On en parlait tout à l'heure dans la table ronde du vampire L'Oréal ou des vampires comme dans True Blood qui boivent du sang de synthèse.
Puisque je suis le moins contemporain d'entre nous, je vais faire le vieux con. Moi, il y a un truc qui m'intéresse dans les littératures de genre, c'est les mouvements de mode, les thématiques qui apparaissent ou disparaissent. Et dans les années 80, ce qui m'avait vraiment bien passionné et secoué, c'était la double mode à la fois de l'horreur moderne et de la fantasy urbaine. Ça a été très très à la mode et très brièvement. Comme souvent les modes, on s'est mis donc à faire du merveilleux, mais qui se passait en zone urbaine, ou en tout cas en période contemporaine, et qui fonctionnait comme du fantastique, à savoir, au lieu que ce soit une intrusion d'un monstre, d'un vampire, c'était une intrusion dans le réel d'une fée ou d'une créature de ce genre. Mais ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis, c'était dans les pays anglo-saxons, hein, ces deux modes-là. Ça n'a pas touché la France. Et puis il y a eu la mode, surtout en Angleterre d'ailleurs, de l'horreur contemporaine. Mais c'est normal, c'est en Angleterre, le fantastique est vraiment un truc très important dans la tradition anglaise. Et puis c'est mort. Ça a plus été la mode, ça s'est plus vendu. Et puis maintenant, bon, l'horreur contemporaine, non, c'est pas revenu, mais jusqu'à présent, mais en revanche, la fantasy urbaine est. Brusquement est réapparu, comme moi c'était ce que je préférais. Je trouve ça vachement fascinant, et je trouve fascinant de voir la façon dont ça avait vachement évolué. Et je relisais il y a quelques jours Le dernier magicien de William Lindell, alias Robin Hood. C'est un des tout premiers romans de la personne qui écrit maintenant sous le nom de Robin Hood. Et c'est la fantasy urbaine donc des années 80, un des tout premiers. Que j'avais adoré à l'époque, qui est toujours très beau d'ailleurs, hein, il est chez Nemos. Mais il a déjà vieilli. C'est amusant que je me rends compte que finalement le niveau d'écriture, le style est un petit peu plat, et l'histoire n'est pas très développée. Elle est très belle, poétique, mais elle ne me semble pas assez développée par rapport à ce que des auteurs actuels peuvent faire. Et puis un truc, alors je ne sais pas si c'est un mouvement de mode ou quoi. En Angleterre, je disais que le fantastique est inscrit dans leur culture. Et en ce moment, à la télévision anglaise, il y a des séries télé avec des fantômes. Il y en a une troisième, enfin, il y en a une pour la jeunesse. Bon, je ne sais pas si elle aura un jour une suite, il n'y a eu qu'une saison. Et il y a eu déjà eu deux feuilletons, c'est-à-dire une série avec, je ne sais pas, 3-4 épisodes. Il y en a une qui vient juste de démarrer. Et moi, qui, à titre personnel, je ne suis pas tellement... porté sur le fantastique classique, donc notamment la thématique du fantôme, la façon dont ils le font à la télévision anglaise actuellement et l'inscrivent dans notre société, dans la société anglaise en l'occurrence, ça me captive, je trouve ça vachement intéressant.
C'est de la BBC qui s'appelle, je crois, Apparition, avec le même acteur que dans Walking Dead. Mignon qui a fait qu'une saison, une histoire de fantôme aussi qui était.
Alors, ben, moi j'ai plus assez de neurones en fonctionnement là. Et du coup, je suis incapable de vous dire l'épique de toutes ces séries, je suis désolé.
Je me souviens de celle-là, même d'apparition, mais qui est pour adulte, ouais. Où il y a d'un côté un psychanalyste et sa patiente qui est en fait.
Ah, je ne pensais pas à celle-là, alors sans fait une quatrième, tu as raison. Ouais. Oui, là, il y a eu deux saisons. Il y a eu deux saisons. Oui, alors c'en est encore une autre, oui, effectivement. Moi, je pensais à trois feuilletons comme Marchand, ou vraiment avec des fantômes, des maisons hantées.
On avait déjà ça, série, quand on était petit, vous vous souvenez de cette série je suis désolée, j'ai vraiment le cerveau, ça a mais il y avait une série où il y avait un gamin qui arrivait dans une maison et. Il y avait un petit garçon qui arrivait dans une maison et en fait dans cette maison il y avait le fantôme d'un autre petit garçon des années 20, qui est une série anglaise qu'on a tous vu, on suit sûr, et voilà, vous êtes aussi ravagé que moi, c'est bien. Ça va être dynamique.
Ce soir, ça va être.
Justement, pour faire le lien avec le Fantastique 19e, là où Fantastique 19e était une expérience singulière et personnelle pour le personnage central, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est devenu finalement le personnage du Restif Fantastique d'antan, souvent anonyme et complètement ordinaire?
Moi, je peux parler de ce que j'écris. Moi, je parle du principe inverse. J'incarne des personnages fantastiques. Et comme j'ai dit sur la table ronde précédente, finalement, le personnage ordinaire, il est juste là pour en faire valoir. Et l'intérêt, c'est d'aller dans la psychologie du vampire, du serial killer, d'aller dans la psychologie du monstre et de l'humaniser. Je pense qu'on a vraiment. Il y a une vague de fond quand même d'essayer d'humaniser le monstre pour apprendre à le comprendre, pour qu'il fasse un peu moins peur.
Karine, comment allez-vous? Karine.
Non, mais je ne sais pas, parce que moi, j'ai pas une approche systématique des. Quand j'écris un texte, ça peut être ça, ça peut être plus le contraire. Après, et puis même pendant on parlait de fantastique, quand je lis les auteurs français qui font du fantastique, je pense qu'il n'y a pas du tout les mêmes tendances qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Déjà, ça ne vend pas beaucoup le fantastique en France. Enfin, je ne parle pas de Twilight ou même de la Beatles ou de la fantasy urbaine qui vend quand même beaucoup plus. En France, il n'y a pas. Il y a étrangement. C'est un truc qui est finalement vachement accessible. Parce qu'il y a plein de comparaisons de science-fiction.
Il y a quand même qui vont
pas. Non, fait de la science-fiction. Non, mais. Je sais pas, j'ai pas lu souvent. Non, mais il n'y a pas. Le fantastique en France, j'ai pas l'impression qu'il y a un engouement dans le public, mais on peut très bien avoir un bouquin de fantastique qui passe très bien dans ce que disait tout à l'heure, dans la littérature générale. Alors qu'il y a vraiment un engouement pour le fantastique, fantasy urbaine ou l'histoire de vampires, les zombies, tout ce qu'on parle de zombies. Mais moi personnellement, j'écris pas ce genre de choses, j'en lis très peu aussi. Et je peux trouver par exemple ce qu'a écrit Nicam, par exemple, parce que j'ai posté avec elle sur le recueil. C'est vraiment différent du fantastique dont vous parliez tout à l'heure. Quoi, qui va peut-être être plus mis en avant dans les médias, parce que les médias se foutent un peu de tout ça. Autant à la télé qu'autant dans les mouvements de mode. Quoi.
Parce qu'il y a beaucoup de gens au cinéma, il y a peut-être moins de lecteurs en fait.
Moi, pour en revenir à la question, j'utilise des personnages ordinaires à partir du moment où ils sont complètement intégrés dans notre société, une infirmière, un flic. Dans mon prochain thriller fantastique chez Rajot, jeunesse et un lycéen, mais ils ont tous un don qui leur permet d'accéder au fantastique. Donc dans l'arc jeunesse, il y a une infirmière qui peut voyager dans les rêves, et en particulier dans les rêves des gens qui sont dans le coma, parce que ce sont des rêves stables où elle ne risque pas d'être happée par l'esprit qu'elle est en train de visiter au moment du réveil. Donc elle choisit d'aller dans les rêves des comateux pour leur proposer un choix entre la vie et la mort, enfin leur faire prendre conscience qu'il y a un choix. Et puis dans Hanté, donc le livre qui sort chez Rajo, c'est un lycéen qui entend les morts à la suite d'un choc psychologique et qui se retrouve au début du roman avec un autre lycéen qui lui les voit et s'aperçoit qu'à eux deux, en fait, ils arrivent à les voir et les entendre en même temps et à partir comme ça sur une intrigue. Voilà, donc moi, ce ne sont pas des personnages ordinaires. À partir du moment où ils ont tout ce don qui permet quand même de rentrer dans le fantastique et d'être un lien entre notre monde et l'univers fantastique, en fait. Tu n'as rien à dire là-dessus.
Justement, sur la partie, justement, pas que sur le personnage, mais finalement, son lien au monde qui l'entoure, parce que c'est aussi ça qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans le fantastique, c'est que le personnage était seul, confronté à autre chose, en fait, dans la fantastique du 19e. Là, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les personnages sont souvent plusieurs, il n'y a plus un seul personnage, ce sont des groupes de personnages qui se retrouvent ensemble, qui sont confrontés à des choses, que ce soit dans les séries télé, les films ou même la littérature. Hein, je vois un peu comme Buffy, même si on est centré autour du personnage de Buffy, elle a un groupe d'amis qui l'accompagnent dans ses aventures et qui sont ce qu'on appelle des sidekicks, c'est-à-dire des gens qui vont l'aider. Et est-ce que ça, c'est aussi une évolution que vous ressentez?
En plus, dans Buffy, on n'est pas tout à fait dans notre monde avec cette intrusion du fantastique. Il est vu que par une personne, parce qu'il en est la victime, ou qu'il veut... Pour moi, dans Buffy, on est quand même dans un monde où le lycée est construit sur la bouche de l'enfer et que personne ne se pose la question de ces démons qui traversent la ville régulièrement et Buffy qui leur croit. Et voilà, ils sont effectivement quatre à combattre, mais personne ne se pose la question. Donc on est déjà dans un univers de fantasy urbaine où l'élément surnaturel est intégré. Voilà, c'est assumé, ça brûle régulièrement et tout le monde continue à vivre sur la bouche de l'enfer. Donc il fait chaud. Donc on est là, c'est plus parce que justement dans la fantasy urbaine, on imagine une société où le surnaturel est complètement intégré. En fait, et pas ce fantastique traditionnel du 19e où il faut combattre le mal et donc bien sûr pour combattre le mal, on doit être dans le secret, donc on est tout seul face à ce qui représente le mal.
Oui, on est passé de l'image d'un fantastique où il y a intrusion dans le réel à maintenant un réel qui est lui-même fantastique. Et c'est ça ce que je trouve passionnant dans cette évolution de la fantaisie urbaine en particulier, c'est que on parle vraiment du fait, on écrit du polar quoi, en l'occurrence, mais en réenchantant le réel, le fantastique, le surnaturel, et incorporé dans le réel, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, il n'y a pas le monstre, il n'y a pas un vampire, il n'y a pas un loup-garou, c'est un phénomène global qui modifie la société et qui nous parle de la société.
On a perdu
Thierry Béroquin. Oui, j'ai écouté, mais je ne me rappelle plus la question.
Finalement, par rapport à la place du personnage entre le fantastique en scène
d'acte. Moi, j'ai du mal à répondre à la question, parce que c'est tellement vaste, en fait, le fantastique, et je n'arrive même pas à le définir moi-même. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'une série anglaise, il y en a une qui s'appelle Marchand, que tu as dû voir.
Voilà, c'est une de celles auxquelles je voulais faire allusion.
C'est une histoire classique de fantôme qui est vraiment bien mise en scène, où tu as des gens qui arrivent dans une maison et ils s'aperçoivent qu'il y a peut-être un fantôme, enfin c'est pas trop, et ça se passe sur trois époques. L'histoire se retrace au fur et à mesure des épisodes, et il y a trois époques, une dans les années 40 ou 50, je sais plus, une dans les années 70, et puis une aujourd'hui. Mais là on rentre dans le cadre classique que tu décrivais, c'est des gens confrontés à des phénomènes un peu bizarres, et notamment la femme qui va avoir un enfant, qui s'aperçoit que effectivement il y a des trucs bizarres dans la chambre d'enfant. Mais ça, c'est classique. Et à côté de ça, on va parler de la fantaisie urbaine, comme tu dis, Buffy ou True Blood, ou je sais pas quoi, où effectivement le fantastique est tout d'un coup fait éruption ou est accepté comme présent. Donc, je sais pas, moi, il y a tellement de variantes, et dans ce que je dis, dans ce que je vais écrire, c'est pas systématique. Ça peut être un type qui découvre soudainement que je sais pas quoi, son pouvoir hanté, ou alors. Qui fait des commerces avec des nains,
rien. Paul Fleur fait des commerces avec des nains.
Non, il est hanté. non, mais je peux pas. Pas très bon spécifiquement. En plus, j'ai pas. Je crois que j'écris un peu n'importe quoi en fonction de. Surtout n'importe quoi. En fonction de mes envies, mais. Donc voilà, ce que je peux parler de...
Sur Facebook l'autre jour, en parlant de bêtises comme ça, sur Facebook il y a un ami qui a eu une idée finalement que je trouve géniale pour faire de la fantasy urbaine. Parce que je m'y connais en disant que dendrochronologiste, je trouvais que c'était une profession formidable. C'est des scientifiques qui calculent l'âge des arbres en regardant le nombre de... et rien que le mot d'endrochronologie, je trouve ça, c'est superbe. Bon, je dis juste comme ça pour dire une bêtise. Et il y a un ami, enfin il y a deux amis qui ont commencé à délirer là-dessus, à imaginer un récit du genre comme la série télé Bones, où on découperait des Ents ou des Dryades pour savoir à quelle heure exacte ils ont été assassinés.
Et justement, par rapport à l'aspect social, justement, du fantasy moderne, il y a quelque chose, en fait, qu'on sent quand même dans la littérature sur le sujet depuis quelques années, c'est le fait que les créatures fantastiques font finalement leur coming out, donc ça va un peu plus loin ce qu'on est en train de dire, et en fait, elles se découvrent même au commun des mortels, en fait, dans True Blood, les vampires disent qu'ils existent, enfin, se révèlent au monde, et le nombre de séries joue sur cette optique-là est de plus en plus nombreux. Comment, dans ce cas-là, vu que dans le fantastique et que l'un des buts du fantastique c'est quelque part de faire peur, comment encore faire peur si la source de la peur dans le texte en question, en fait, ben, finalement, il n'est plus là parce que il n'y a plus de surprise à la découverte de la créature, elle est connue.
La
critère
en fonction de faire peur, hein, c'est de faire le cas avec les coups, quand même, voilà, le but c'est de True Blood. Tout l'intérêt scénaristique de True Blood, c'est de voir Eric Norseman dans ce poil, en fait. C'est clair, c'est le seul.
Je suis pas d'accord, c'est plutôt devant les fesses. Je suis qui.
Rapport monde au cerveau, là, c'est un problème. Mais voilà, je pense que tout ce qui est bêtise, c'est pas censé faire peur. Ce sont des aventures sentimentales et des aventures pures avec des...
Oui, je suis pas d'accord, il y a quand même un côté dans la série, comme, parce que moi je suis un grand fan de True Blood, il y a quand même un côté effroi, mais de toute façon, c'est, enfin, je veux dire, un tueur en série, on sait ce que c'est, ou un malade mental, ça appartient un peu au domaine du fantastique, ça fait sûrement plus peur aujourd'hui qu'un vampire. Ouais.
Non,
mais je te parle au niveau...
Pour rebondir, la peur va plus se retrouver dans l'horreur, qui est aussi un petit peu plus fantastique. On va plus se retrouver de... Cette peur, on va aller la chercher dans le thriller fantastique ou dans l'horreur. Pas dans la vie, par exemple.
Si on prend par exemple l'entretien avec un vampire, ce qui fait peur, en fait, c'est le personnage qui se découvre vampire et tout ce qu'il subit à cause de cette métamorphose. C'est-à-dire que c'est plus le vampire, enfin c'est plus le personnage, oui c'est affreux, c'est plus la personne ordinaire qui se retrouve confrontée au vampire et qui a peur et qui veut le tuer à tout prix pour le débarrasser du mal, c'est la personne qui a le mal en elle et qui doit s'accoutumer de ce mal.
La perte de l'humanité.
Et c'est ça qui fait peur en fait, c'est de s'identifier à quelqu'un qui a été contaminé entre guillemets.
Mais ce qu'on retrouvait déjà dans Stephen King, qui est le spécialiste de ça, le premier personnage justement, alors pour le coup isolé, souvent d'écrivain, qui ont obligatoirement une faille de l'alcoolisme ou une histoire de maltraitance souvent derrière et effectivement qui doivent d'un côté repousser les assauts du mal extérieur et du mal intérieur, il y a évidemment des résonances dans, par exemple
chez Lovecraft aussi le cimetière d'ailleurs il pense qu'il est normal, il vit seul, il n'a jamais vu son reflet et puis un jour il monte la tour et puis il arrive dans le monde des hommes, il tombe devant un miroir et il se rend compte que c'est un monstre, il est mort quoi. Donc c'est une sorte de boule, mais lui il se croyait tout à fait normal. Donc même chez Lovecraft déjà on basculait sur une peur de soi en fait, plutôt que la peur de l'autre.
On a abordé aussi plusieurs fois, et c'est aussi lié à la notion de fantasy urbaine, ce passage finalement d'un fantastique des champs, un fantastique des villes, les créatures fantastiques qu'on connaissait jusque-là, qui étaient des créatures qui vivaient à la campagne, dans le château de Dracula, les garous dans la forêt, on était quand même vraiment sur un aspect campagnard, on va dire.
La corde de la nature, sauvage.
Maintenant, en fait, tout ce fantastique-là, en fait, justement, il est urbanisé, en fait. Les séries fantastiques actuelles, la littérature fantastique actuelle, elles utilisent très très peu encore le cadre de la campagne et davantage celui de la ville. Comment vous expliquez justement ce passage-là à la ville comme finalement...
Moi, c'est facile à expliquer. 60% de l'humanité vit en ville. Alors, c'est logique, mais je trouve ça passionnant pour le coup. Il y a une série qui est à peine traduite en France par Kate Griffin, mais ça va paraître chez Eclipse. C'est ce que je trouve de mieux en fantasy urbaine. Ça se passe à Londres. Et dans Kate Griffin, il y a des... On voit un moment, juste un détour d'une scène au crépuscule. Il y a les dryades qui se détachent de leurs lampadaires. Les dryades des lampadaires. Je trouve ça d'une poésie. Ça nous parle de notre propre environnement, quoi. Et puis des dryades dans les arbres, parce que les arbres, on ne les connaît pas trop de nos jours. Et à ce moment, les lampadaires. Dans la même salle, il y a toute une jolie description. Dans la même description, souvent les architectes modernes, en tout cas à Londres, s'amusent à mettre dans les résidences des petites fontaines. Et on nous explique qu'en fait, dans la fontaine, il y a des kelpies qui sont en train de naître. Il y a des œufs de kelpies, c'est-à-dire des créatures monstrueuses, des chevaux carnivores aquatiques du légendaire britannique. Je trouve ça génial. Enfin, il y a une poésie urbaine qui se dégage de ce fantastique-là que je trouve qui est pertinent, quoi, qui nous parle de notre monde.
Et encore ce thème de l'isolement, on l'a retrouvé pendant des années dans l'horreur, en fait, où pareil, le truc classique, c'était le type qui arrivait dans une maison, on se disait, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette maison? Et puis son gamin commençait à avoir des stigmates, il restait quand même dans la maison parce qu'il avait loué tout le mois. Et qu'on retrouve dans je suis pas mal d'auteurs d'horreur, moi j'adore ça, j'adore ce moment où on est dans une maison et on se dit, voilà, c'est le moment où ce papier va tomber. Et voilà, donc là on était encore, ça c'est plus années 80, 90, ouais. Surtout on était dans l'isolement, effectivement, avec ce côté très très flippant de je suis perdu au milieu de nulle part, mais qui est déjà une peur urbaine en fait. Tout seul dans une maison de campagne,
mais parler de l'isolement en pleine ville, ouais. On n'est jamais aussi seul que dans une foule. Ça, je trouve ça formidable parce que ça nous parle vraiment de notre société.
Moi, je disais par rapport à vous qui vous connaissez un peu mieux que moi, monsieur Rouleau, par rapport à la fantasy urbaine, c'est vachement anglo-saxon en fait au niveau de tout ce qui est folklorique. C'est écrit par des anglo-saxons, je comprends bien.
Oui, mais on pourrait le faire en France.
En France, on n'a pas beaucoup. Déjà, bon, au niveau folklore, on a quand même un peu oublié, plus oublié notre folklore, que moi, je n'ai pas connu, parce que je suis trop jeune, même si j'ai plus de cheveux. Mais il n'y a pas cette réappropriation du folklore.
Ben, pas tellement. Pas tellement, mais je vais vous révéler un secret de fabrication. Ayerdal m'a parlé de... Il m'a raconté... sa prochaine, il va écrire une trilogie de fantasy urbaine pour moi et il va raconter les deux premiers tomes. Putain que c'est beau. Et ça se passe à Bruxelles et c'est les mythes belges et ça se passe de nos jours. Ça parle de politique parce que c'est à Ayerdal, ça parle de notre société. Qu'est-ce que ça va être? Alors je suis content parce que justement enfin c'est un non-anglo-saxon qui s'approprie nos villes, notre culture, notre légendaire. J'appelle de mes voeux, là je parle en tant que guillotin. J'appelle de mes voeux que d'autres écrivains le fassent.
Mais justement. Vraiment, je passe après Ayerdal, donc sympa. Mais justement, le bouquin sur lequel je suis en train de travailler avec un autre auteur, donc un bouquin à quatre mains, c'est un livre de fantasy urbaine. Ah ouais. Mais alors, on a triché. Tu vas sur ce coup-là, tu as le droit de me taper parce que ça se passe à Chicago dans les années 30. Donc on a triché, mais du coup, comme on a pas mal de faits qui viennent d'Europe, on a intégré les mythes européens dans Chicago, et c'est donc un univers où les faits sont arrivés aux États-Unis. Et voilà, on est en train aussi de travailler là-dessus.
Oui, j'avais juste une question par rapport à tout ce que vous dites. ça me fait penser à quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fantastique japonais, où justement, à mon sens, ils sont très très forts pour faire intervenir ces démons familiers, les yokai, dans la vie quotidienne, dans la ville. Il y a ce thème de l'isolement en pleine ville, bah, quand on pense à des films comme The Ring, etc., c'est vrai que c'est clairement des gens qui, malgré tout ce qu'ils pourront faire, sont quand même isolés à un moment donné, ils ne pourront pas s'enfuir ou échapper à quelque chose d'affreux qui va leur arriver. Est-ce que votre sens, le fantastique japonais, cette culture japonaise a pu influencer le fantastique européen à un moment donné à un autre? Est-ce que vous sentez une influence, quelque chose? Ou est-ce que finalement, non, c'est juste pas de rapprochement à faire?
Ouais, bah, t'as raison. Oui, non, oui, j'allais dire non, mais j'avais pas. Jérôme, t'as raison. Oui, Jérôme fait Jérôme Noirez.
En jeunesse, par contre.
Oui, en jeunesse, a beaucoup fait. Oui, oui, t'as raison. Ah, il y a la fantaisie urbaine.
Il y a la
fantaisie
urbaine,
mais
médiévale.
Télé, au cinéma, je pense un peu. Mais c'est marrant de.
Ouais, mais il a même fait de la fantaisie urbaine. En milieu urbain, de nos jours. Enfin, moi, c'est ce que du coup, c'est ce que je peux préférer chez lui. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui l'ont fait, c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'appelle de mes voeux qu'il y ait d'autres auteurs qui le fassent. Et je disais à Yerda l'autre jour, Primo, je lui disais, je voudrais publier. Et puis, dans mes autres envies, je voudrais la fantaisie urbaine. Il dit, ah, ben justement.
C'est vrai. Non, mais pour revenir sur le Japon, c'est vrai que c'est un peu une caricature de mégapole avec des millions de personnes sur très peu de kilomètres carrés, vivent les uns sur les autres et vivre finalement. Éloignés les uns des autres. Moi, nous, on avait fait un voyage au Japon, c'est assez. C'est impressionnant. Hein. Ils ne parlent pas, ils sont là d'un côté. On attache les uns sur les autres, et je pense qu'il y a effectivement cette peur.
Mais j'ai vu que, je sais bien qu'elle dit que le Japon était très très fort pour justement réinventer des mythes urbains très régulièrement. Donc il y a eu ce fameux mythe de la femme au visage déchiré qui apparaissait par rapport aux enfants, qui est très récent, c'est des années 80. Et régulièrement, il y a des mythes comme ça qui réapparaissent nouveaux finalement, ce qui s'appuie quand même sur une base. Ancienne avec une culture folklorique qui reste très prégnante parce qu'on a toujours ce mythe de la femme fantôme avec ses longs cheveux noirs. Et... Donc voilà, quand même, des choses qui restent.
Oui, alors que nous, on a des mythes urbains, mais avec des crocodiles dans les égouts à Paris.
Tu arrives les années 80.
Oui, c'est vieux.
Non, le seul mythe urbain qu'on a, c'est les Roumains qui viennent chercher les SD, les femmes mendiants.
Oui,
c'est
ça.
Non, quand tu as les SD sur les autocollants.
Quand j'ai écrit, oui c'est bien aussi ça. Quand j'ai écrit le premier édico féerique, j'ai recherché justement, je voulais, puisque j'essayais de donner des exemples de tas de légendes du monde entier, et j'ai essayé de trouver des légendes actuelles avec des faits quoi, en Occident. Et j'en ai trouvé, mais il y en a effectivement très 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 peu. Et j'en ai trouvé. Ouais, je ne sais plus exactement de mémoire, mais au moins, enfin, trois, on va dire.
Les histoires de dames blanches qui se
passent. Voilà, oui. Notamment les dames blanches, bien sûr.
Sur lesquelles tu as joué en plus.
Oui, bah, sur celle de la route, mais sur celle de la maison aussi. Oui. C'est assez bon.
Il y a les dames blanches qui sont bien. Il y a une, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Bloody Mary. C'est une histoire que les mômes sur le continent nord-américain se racontent pour se faire peur. Et il y a un rituel, il faut dire cette fois Bloody Mary devant un miroir. Et là, il y a un monstre ensanglanté, une femme ensanglantée qui te saisit et te défigure ou te tire dans le miroir. C'est un mythe que les mômes ont inventé pour se faire peur.
Ça fait aussi référence à un
Candyman. Oui, évidemment que les mômes, ils ont trouvé ça à partir de quelque chose.
C'est l'histoire des dames blanches en France qui se raconte aussi. Les élèves le racontent régulièrement, leurs histoires, pour se faire peur, il y a toujours la dame blanche.
Ah, ouais. Et il y a une dame bleue. J'ai trouvé qu'une seule référence. Et c'est, voilà. C'est à Hawaï. Et en fait, alors, est-ce que c'est le journaliste qui a tout inventé? Mais alors, c'est une très belle invention. Parce que j'ai trouvé qu'un seul article reproduit cette année sur le web d'un journal, un quotidien de Hawaï qui racontait ça. Et comme quoi, prétend cet article, les mômes dans les gangs auraient inventé toute une mythologie, se seraient inventé toute une mythologie où il sortirait de la mer de temps en temps une fée qui s'appelle la Dame Bleue, la Blue Lady. Et notamment, certains enfants sont censés savoir le nom secret, le vrai nom de la Blue Lady, et si tu le prononces, tu ne seras pas touché par les balles dans les tirs entre gangs. Et en revanche, une grande partie du malheur qui de ces enfants viendrait de la Huesera. Alors ça, c'est un mythe, c'est une sorcière mexicaine, c'est tout un mythe qui existe au Mexique, donc ils l'ont importé en le déformant. Et donc la Huesera serait une sorcière qui se nourrit du malheur des enfants des gangs. J'ai trouvé ça assez bouleversant, très très... Mais j'ai jamais trouvé d'autres références que cet article, donc je ne sais pas si... Voilà, si le journaliste a brodé, ou voilà, si c'est le fantasme du journaliste, auquel cas c'est un fantasme intéressant, ceci dit, mais ou si vraiment c'est ancré dans les gangs de Mo Mai Wai.
Est-ce que vous pensez que la littérature fantastique et ou la fantasy urbaine, du coup, pour la littérature de genre, même pour aller plus large, peut-elle encore faire peur, il y a encore possibilité de faire peur aux lecteurs aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de tout avoir vécu en littérature?
Moi, je peux t'assurer que quand je lis Ma vraie vie, vu comment c'est écrit, vache, Bernard Werber, voilà, vache, qu'est-ce que ça fait peur.
Moi, je pense que oui, mais...
Bien sûr,
moi, j'ai peur en lisant certains livres... encore des choses très très classiques, bon, je suis très impressionnable, mais en lisant du Masterton, où j'arrive à avoir encore peur, ou du Stephen King, ou voilà, mais moi j'ai besoin de l'imaginaire pour avoir peur. Les histoires de serial killer, ça me fait pas peur en fait, puis ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai vraiment besoin du monstre pour avoir peur. Et en tant qu'auteur, moi j'ai régulièrement des lecteurs qui me disent j'ai du mal à dormir après Narcogenèse et j'ai du mal à lire le soir. Je suis très fière de moi. mais voilà, mais en même temps, je suis super impressionnable et je me fais prendre. Alors, la vengeance, c'est que je me fais prendre dans mon propre jeu, puisque cette nuit, j'ai pas dormi, je dormais dans une roulotte à côté d'un bois. J'étais persuadée qu'il y avait un type qui voulait rentrer. Il y avait des ragondins derrière, enfin, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Donc,
les fameux ragondins tueurs de.
Messieurs, on l'a caché depuis le début. Il y a quelqu'un qui m'a glissé un mot à un moment, faites attention, ragondin. Mais on peut obligatoirement faire peur à partir du moment où on utilise nos propres peurs. John Irving le dit très bien, et il suffit de lire La Veuve de Papier pour le savoir, enfin, quand il dit qu'il se purge de ses peurs en écrivant. Donc dans La Veuve de Papier, c'est la peur liée à la disparition des enfants. Par exemple, nous-mêmes, on se purge de nos peurs, donc on fait peur, on les transmet, ces peurs. Dans Narcogenèse, Le Marchand de Sable, c'est vraiment Freddy Krueger. Moi, ça m'a terrifié l'idée que... Enfin, à la fois la perte de contrôle du sommeil, l'idée du coup que... puisse y avoir un monstre qui vienne me détruire, enfin qui vienne me tuer mon esprit. Et du coup, c'était lié à une peur du contrôle permanent, dont je suis en train de régler, vous inquiétez pas. Mais voilà. Et donc, du coup, on les transmet ces peurs. Donc, j'espère que ça fait peur, parce que sinon, ça veut dire qu'on est assez lamentable. Hein, donc.
Moi, le truc que j'écris en fantastique, c'était pour les enfants, donc c'est plus facile, c'est des proies beaucoup plus aisées. Hein. J'espère bien que mes bouquins ne font pas. Elles sont, alors pour le coup, les albums que j'ai coécrits avec Fabrice Collin sont bourrés de monstres. Hein. Alors ça, c'est des catalogues de monstres. Hein. Au point que, dans un autre débat, je disais, l'éditrice a tendance à vouloir nous censurer, dire « Oh, c'est trop macabre, oh là là, ils vont avoir peur. » Oui, bah, c'est des livres d'horreur pour enfants, donc excusez-moi, mais j'espère bien qu'ils vont avoir peur quand même.
Il y a la peur de l'enfance qui est se faire plaisir en se faisant peur, se raconter, ouais. C'est ça, c'est le principe du conte, ouais. Hein, on raconte des histoires, mais enfin, on est tranquillement dans son lit avec son père ou sa mère qui lit, donc ça c'est l'espèce de peur délicieuse qu'on retrouve dans les jeux aussi, et voilà, on s'amuse à se perdre, on s'amuse, ça c'est différent, et puis l'autre peur qui est une peur plus réelle ou plus fondamentale ou plus existentielle qu'on retrouve, là, dans un fantastique pour adultes, et là, dont je parlais, Stephen King, ou qu'on retrouve dans le réalisme magique, dont on n'a pas parlé du tout, mais qui est une partie fantastique qui est absolument passionnante, et là, pour le coup, qui marche, et que beaucoup de gens ont lu en France aussi, alors que c'est un genre complètement sud-américain. Voilà, c'est ces deux peurs différentes. Il y a ce qu'on trouve qui fait résonance à nos peurs, dont on a besoin par effet de catharsis. Je lis mes peurs pour ne plus les éprouver. Et puis, il y a la peur délicieuse, la peur du monstre, où effectivement, là, on est dans un fantastique plus à la Masterton, où on tourne les pages en disant, est-ce qu'il va arriver Enfin, moi, je me souviens, je crois que c'était ma certaine dans Les Voix Horribles avec un homme rat, dans un orphelinat, de rire. Il était terrifiant, cet homme rat. Et en fait, c'est rigolo parce que je l'ai lu et puis il y avait l'histoire de. Il était dans la cave. Et en fait, j'ai passé la nuit, après avoir lu ce livre, à flipper en me disant que j'entendais des bruits, jusqu'au moment où je me suis aperçue qu'on vivait au deuxième étage. Voilà, donc ça avait vraiment marché, mais cette peur délicieuse qui est très différente de la peur catharsis dont on a besoin pour, que ce soit en tant que lecteur ou en tant qu'auteur, pour respirer, enlever, mettre de la distance.
Là, je vais te rejoindre sur la peur catharsis. Moi, l'un de mes personnages préférés, c'est le catapote dans La Chimère aux ailes de feu. Et c'est en fait un personnage qui est quelqu'un d'assez bon, qui est très contrôlé, très socialement intégré. Et par contre, il se tire une ombre gigantesque au fait des cauchemars. Et dès que son ombre rentre en contact avec quelqu'un, elle le tue. Donc c'est justement l'idée du cauchemar qui rentre dans la réalité. Donc, moi, j'utilise beaucoup mes cauchemars pour faire peur aux lecteurs.
Moi, je ne fais pas de cauchemars, donc.
Ouais,
des trucs.
Non,
mais je pense que c'est en fonction du lecteur. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, lire un livre, ça me fait. C'est rare que je puisse avoir peur. Je ne pense pas souvenir depuis les derniers Lovecraft que j'ai lu quand j'avais. Mais après, ça dépend des sensibilités, je pense qu'il y a des gens qui vont chercher. Et puis il y a des gens qui aiment ça, qui aiment se faire peur.
Moi, il y a un livre qui m'a fait peur, mais qui ne faisait pas vraiment peur, c'est Vision aveugle. Je sais
pas si ça vous dit. De Peter Watts.
Ouais, alors qu'il n'est pas censé faire peur, mais il m'a mis un malaise. Enfin, plus une peur, une espèce de malaise. Quoi. Et on retrouve souvent plus une forme de malaise qu'une vraie peur.
Voilà, parce qu'en fait, les peurs, c'est tellement vaste peur, ça peut être un monstre, mais ça peut être aussi des peurs très très ordinaires.
Oui.
Des choses que nous projetons aussi. Et, de personnes qui partent dans une cuisine, ça peut faire super peur. Hein, ça dépend qui et de quoi
et
comment.
Quoi.
Donc.
Un petit gamin qui roule avec un tricycle dans les.
Dans les couloirs.
C'est quand même plus facile. Dans un film, de faire peur aux gens que sur un livre.
C'est super dur d'utiliser des. Pour en avoir fait l'expérience, d'utiliser des. Ça, c'était vraiment un. D'utiliser des fantômes. Dans un livre, quand j'ai écrit le Rajo, justement, la difficulté, c'était de faire apparaître des fantômes. Dans un livre, c'est super difficile, les fantômes qui pas des monstres, justement, des fantômes qui arrivent et qui essayent de communiquer. Non, mais même d'un point de vue narratif. Hein. Parce que il faut rentrer dans une écriture vraiment très très visuelle, tout en gérant évidemment l'émotion du personnage. Et c'est vraiment le fantôme, par exemple, pour moi, c'est vraiment le personnage fantastique qui tient bien mieux et qui est propre au cinéma. Ce qu'on a fait au cinéma avec Sixième Sens ou avec les autres, on aurait fait plus difficilement, je pense.
Les autres, il me semble que c'est le Turn of the Screw.
C'est une nouvelle à la base, ouais.
Mais je pense très très bien, mais effectivement.
Il n'y a pas le même.
Alors, on comprend du coup qu'à la fin.
Tout à fait. Ça, c'est très très dur de. C'est très très dur. C'est voilà, c'est vraiment une autre écriture. Donc on est dans une écriture très visuelle pour intégrer ces informations.
Dans le film de Moscou, on ne sait pas si c'est vraiment du fantôme ou si c'est du fantasme, si elle est folle.
Ouais.
Oui, son point de vue à elle, on ne sait pas en fait.
Alors que dans le film, on ne se pose pas la question
jusqu'à la fin, et à aucun moment.
Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le voir plusieurs fois, même quand on connaît la fin du film, on arrive à être encore inquiété. Vraiment, c'est un état clos.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas dans les livres et qu'il y a dans les films ou dans les jeux vidéo, c'est le silence du. En fait, quand on lit d'une traite, il y a pas, on peut pas laisser une page blanche. Voilà. Alors que dans le film, dans certaines musiques aussi assez angoissantes, dans certains jeux vidéo, il y a le silence qui précède toujours la chose qui va nous faire flipper. Et c'est vrai que c'est assez difficile de se représenter une peur.
L'immobilité aussi. Il y a l'immobilité du fantôme qui est donc cette apparition, qui se fait un mouvement après, parce qu'on a besoin de se mettre en attente visuellement pour avoir peur.
Enfin, il y a des trois petits points qui font vachement peur quand même dans le livre.
Moi, j'ai une bande-son et des corps grinçants.
Ouais.
Je pense que c'est deux mots et une expression qui sont vraiment différents.
Hein,
le cinéma, essayer de calquer un film au cinéma et en faire un roman, on n'arrivera pas à faire la même chose. On peut faire des choses très bien. On peut adapter très bien une nouvelle ou un film, ou un roman. On peut aussi l'adapter très mal, mais on fera de toute manière pas la même chose.
C'est peut-être pas les mêmes peurs aussi qui sont visées. Enfin, du coup,
c'est pas
bien. Dans le roman, enfin, par l'écrit, on peut facilement aller dans la psychologie. Bah justement, j'en parlais avec un des lecteurs pour une dédicace, il me parlait de « je suis une légende ». Je suis une légende, on est tout le temps dans la tête du personnage. Le film, bah, c'est
non,
impossible à faire. Enfin,
Ils sont ratés trois fois.
Et oui.
C'est vrai que...
C'est le dommage. Hein,
pourtant, la première fois, il était bien. Hein.
Oui, la première fois, c'était limite mieux. Hein.
Donc là, on voit vraiment la difficulté quoi, de ce qui est advient. Enfin, dans la littérature, c'est qu'on va au fond, où le lecteur, il pense avec les personnages, il vit le personnage, il peut avoir toutes ses réflexions. Alors qu'au cinéma, avoir un monologue...
Et en plus, on est beaucoup plus dans le règne de la peur surprise aussi.
Oui,
justement, en jouant sur le son,
c'est
voilà,
la musique. Attention,
c'est une image. Il y a comme celui des Dents de la Mer qui est super bien synchronisé, justement, avec l'arrivée ou pas du requin. J'ai vu son scénario et c'est.
Ouais,
oui, justement, c'est l'exprès, justement. C'est ça qui est très fortif.
J'ai une question. Est-ce qu'il y a un style d'écriture qui favorise la peur? Par exemple, le style. Personnel, enfin de parler à la première personne, ou à la troisième personne, de parler, d'alterner les points de vue ou de garder le même personnage, est-ce que ça favorise certaines peurs? Par exemple, d'être toujours avec le même personnage, de voir ce qui, enfin de lire ce qu'il pense tout le temps, ou d'alterner les points de vue, enfin.
Moi j'aurais tendance à dire que d'être toujours avec le même personnage, on s'identifie et on peut vivre ses peurs.
Mm-hmm.
Alors si on change de point de vue tout le temps, c'est plus difficile de s'identifier. Mais après, sur le changement de point de vue, il y a un intérêt aussi, c'est que du coup, on peut devenir beaucoup moins manichéen et avoir différentes peurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage qui subit le monstre ou quoi que ce soit, et puis après, on peut avoir le point de vue du monstre qui, lui, a peur d'autre chose. Parce que les monstres ont peur aussi.
Moi, j'utilise très peu la... Enfin, j'utilise pas du tout, en fait, la première personne, parce que je trouve que c'est une personne assez restrictive. Dans les temps qu'on peut utiliser, dans voilà, mes genres, enfin, j'aime bien ce qui est transgenre justement, enfin, donc la première personne tout de suite je suis bloquée, voilà, j'ai l'impression c'est un peu différent parce que alors j'utilisais un seul point de vue dans Hanté chez Rajo, ce qui était très pratique puisqu'il y avait une évolution vraiment du personnage dans l'intrigue, une intrigue unique en soi. Mais dans Narcogenèse, j'ai utilisé plusieurs points de vue parce que d'un côté il y a une intrigue fantastique et de l'autre côté il y a une intrigue policière. Donc il fallait jouer avec ces points de vue effectivement où on avait d'un côté un personnage qui avait complètement intégré le surnaturel et l'autre qui est le personnage du flic qui n'a pas de point de vue parce qu'il ne se pose pas la question en fait. Il est dans son affaire à lui. Donc voilà, ça Moi j'aime bien alterner les points de vue, je trouve ça plus intéressant en tant qu'auteur, mais peut-être effectivement moins efficace dans le fantastique où on suit ce personnage, l'intrigue se dévoile petit à petit, donc avec plusieurs points de vue. Quand on utilise plusieurs points de vue, obligatoirement, si on commence à faire des choix entre auteurs dans les points de vue, il y a un jeu qui se met en place avec lequel je suis pas à l'aise, c'est-à-dire qu'on choisit vraiment de donner certains points de vue, pas, et là dans une forme de un peu de tricherie, on est plus dans l'omniscient en soi, alors que dans le point de vue interne, effectivement, on peut dérouler l'intrigue avec ses failles, ses zones d'ombre, sa temporalité plus facilement et avec une honnêteté, disons, avec une plus grande honnêteté vis-à-vis du lecteur, puisqu'on s'amuse pas à terre, alors c'est pas cohérent certaines fois. Est-ce que j'ai été bien claire? Arrêtez de me regarder comme ça.
Et André-François, par rapport justement à...
Quand André-François aura fini son texto...
C'est pour ça que je me permettais de m'avancer. Par rapport justement, toi, ta position d'éditeur au niveau de la sélection des textes, justement, est-ce que toi, tu arrives à avoir peur en lisant le texte qu'on peut te soumettre, en fait, et est-ce que tu délimites finalement qu'est-ce qui semble marcher pour potentiellement pour le lecteur, si c'est les objectifs de certains des bouquins que tu lis ou pas?
Pas parce que j'ai pas publié de fantastique. J'appelle mes voeux donc de la fantaisie urbaine, mais j'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'en publier véritablement. J'ai publié un truc de fantaisie contemporaine, mais pas une même. Et j'ai pas publié pour l'instant de fantastique. Et le seul ouvrage de fantastique qui est prévu chez moi, c'est un vieux bouquin russe, donc c'est pas du contemporain. Désolé.
Sans la peur, finalement, le reste fantastique est-il possible, a-t-il encore un sens? La peur, c'est quand même une des composantes, une des visées.
Il n'y a pas que ça.
Il
y a le suspense.
Merveilleux.
Et il y a le merveilleux. Voilà. Donc, moi, je lis infiniment plus souvent des bouquins où il y a du suspense et ou du merveilleux que de la peur. Que le polar de nos jours, ça fait pas très très peur, ça peut être très très noir et ça fait justement ça marche plus au niveau de la peur, il me semble.
Tu fais une réflexion sur l'homme, cette idée de déshumanisation aussi, qui peut presque pas autant par la peur, mais par la réflexion sur soi en fait.
Donc tu parlais tout à l'heure
Oui,
c'est. Enfin, maintenant, le monstre nous fait moins et moins peur. On en voit tellement au cinéma, on en voit.
On en rit beaucoup aussi.
Alors que ce qui peut faire effectivement plus peur, c'est l'aspect déshumanisant de nos sociétés, l'aspect. On est tous les uns sur les autres, mais on ne communique plus. Toutes ces choses-là, quoi, l'aspect isolement, mais dans un groupe, Là, il reste encore une peur de l'abandon, une peur du rejet, une peur de la solitude, en fait.
Breaking Bad. J'ai arrêté de regarder, je trouvais ça trop crade et ça me foutait les couilles.
Ah ouais.
Breaking Bad, série américaine. Et ça me fait beaucoup plus peur, c'est le moins qu'on puisse dire, que True Blood, qui est une comédie.
Oui, mais oui.
True Blood, c'est juste là pour nous faire... Mais ça marche, ça nous fait hurler de rire. Hein. Les trucs les plus horribles sont juste là pour nous faire marrer.
Breaking Bad, il y a un problème de mœurs, de morale, quoi. Hein, qui peut être dérangeant.
Ah, carrément malsain. Enfin, moi, je trouve cette série hyper malsaine. Je suis sans doute peut-être réac, mais j'ai tendance à désapprouver une série comme ça.
Je la trouve très c'est bon aussi. Ah. C'est pas grave, on ne va pas être ça.
Et est-ce que justement le fait de. C'est dans une des dernières conférences que j'ai citées, je ne sais plus. On disait que le fait de ne pas nommer certaines peurs les rendait plus horribles. Et est-ce que du coup ne pas nommer. Enfin, ne pas. Représenter les peurs malsaines en fait ne contribue pas au fait que justement elles sont. Je sais pas comment.
Il n'y a rien de pire que ce qu'on imagine.
Voilà.
Il n'y a rien de pire que effectivement que voilà, ce qu'on décrit, ce qu'on voit. C'est pour ça que le monde se fait pas peur. Le zombie a jamais fait peur en soi. Qui a eu peur des zombies c'est, voilà, il est là.
Il est là en plus.
Bah, ça dépend. Hein. Le scénar a besoin que ce soit rapide ou pas. Ce qu'on voit en soi, donc, du coup, c'est que ça tient de l'horreur, ça ne fait pas peur. Ce qu'on imagine est absolument. Le fameux point de suspension, c'est insupportable.
Et à partir
de parfaitement capable de remplacer les blancs partout, en plus par nos propres horreurs et nos propres peurs.
Il y a un épisode de Buffy comme ça qui est glaçant, alors qu'on ne voit rien. Pour une fois dans Buffy, c'est le genre de Buffy normalement. Où ils font après la mort de la mère de Buffy, ils font une incantation. Et on voit des chaussures qui marchent sur le sol, et on se doute que malencontreusement l'incantation a réveillé le cadavre de la mère de Buffy, et on ne verra jamais le cadavre ni rien du tout parce qu'ils arrêtent l'incantation. C'est un moment assez glaçant, je veux dire.
C'était partie du corpus d'épisodes les plus effrayants. nom de la série, parce que c'est suite à la,
absolument,
à la mort de la mère, finalement, sont les épisodes les moins fantastiques.
Oui, et les plus glaçants. Qui font plus
peur, ouais, en fait, ouais, ouais. Qui sont plus flippants, parce qu'on se rend compte que le personnage principal, finalement, c'est la seule chose qui arrive. Autant on arrive à venir à bout de malédiction, d'apocalypse, sans nom et de créatures incroyables. Par contre, la mort d'un de ses proches, qui est quelqu'un d'humain, bah, elle ne peut rien y faire.
Et quand Willow l'a fait revenir Buffy.
Oui.
Non, mais plus
et qu'on comprend que Buffy, en fait, était au paradis, en quelque sorte.
Oh, ouais,
c'est pas assez traumatisant.
Voilà,
elle a été obligée de sortir de sa tombe à la main, ce qui est déjà abominable. Et en plus, elle était bien, elle est obligée de retourner, de retourner dans l'enfer de Sunnydale.
Mais
ah,
une bonne morale, c'est qu'elle a fait
coucher
avec Spike.
Ah,
c'est
normal. Et c'est moral de coucher avec un imbécile pareil.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres
questions. Si, mais en fait, justement pour vous dire ce que vous dites, le dernier livre qui m'a fait très peur, on pense maintenant j'ai très peur des ours blancs, c'est Terreur de Dan Simmons. Et effectivement, ça se passe dans un climat d'isolement total, puisque c'est l'échec de l'expédition Franklin, qui a eu lieu au 19e siècle, l'exploration de la voie du pôle sud. Donc les trois navires ont disparu, a priori ils se sont tous mangés les uns les autres, on n'a jamais eu de nouvelles. Et voilà, c'est l'histoire de cette expédition avec une mystérieuse créature qui les attaque par surprise, qu'on ne voit jamais, mais qui les égorge finalement, plus ou moins tous, grosso modo. C'est l'histoire de cannibalisme et cette histoire d'isolement total en plein pôle sud, la glace, la neige, on ne sait pas ce qui se passera.
Oui, mais souvent, maintenant, c'est parfois l'humain qui fait peur.
C'est
le cannibalisme.
On ne sait pas qui va devenir, qui va passer,
ce qui va se passer,
la transgression de manger de la chair humaine.
Situation extrême.
C'est vachement anglo-saxon quand même, ce genre de scénario de peur. Parce que mon auteur français, à part au XXe siècle, au début, à la fin du XIXe, où il y avait tous ces mots passants, toutes ces peurs.
Bah oui, c'est pas
dans l'époque, mais aujourd'hui,
c'est pas dans les.
Moi, je vois pas d'exemple.
Dans la culture française. Il y avait dans le temps, dans les années 90, il y a quelqu'un qui est maintenant traducteur, Jean-Daniel Breck, il écrivait des nouvelles d'horreur, qui étaient superbes, et il les a quasiment toutes publiées en Angleterre.
Ouais.
Il n'était pas publié en France, parce qu'il n'y avait pas un support, quoi que ce soit, pour publier ce genre de texte. Et ces nouvelles se passaient en France, elles n'étaient pas acculturées. Hein. Se passaient à Bordeaux, etc.
Mais
dans
l'anglo-saxon, là, c'est très con.
Je mange des escargots. Est-ce qu'on tasse aussi de la France? Il y a beaucoup d'animés au Japon, ces animés sont japonaises, la vision de Paris, c'est une ville de province où les héroïnes vont acheter leur pain en Solex, il y a un mec qui joue de l'accordéon au coin de la rue, et une tour Eiffel de 800 mètres, alors toute maison en fait.
Entre ça et les châteaux, enfin et Versailles qui fait toujours autant fantasmer les Japonais comme si on vivait encore au XVIIIe siècle. Voilà.
Que dire des pauvres habitants de mes yeux, les Magellans, qui vivent avec des ragondins qui piquent des choses. C'est quand même bien des peurs. Moi, si j'avais su, et nous, venir dans mettre des pieds. Des ragondins serial killer.
Sympa,
tu veux dire.
Sympa le ragondin.
Empâté.
Je
sais pas si vous avez d'autres questions.
Vous avez eu peur.
Apparemment, oui.
On termine là, parce que là, on va remercier les écouteurs présents autour de cette table ronde.
Merci, monsieur.
Merci, monsieur.